Chapitre 13. Colin Manille tira une autre chemise, très mince, d'une armoire, et la posa devant lui.
La victime dans l'affaire dont je vais vous parler se prénommait Nathalie Charlier, 55 ans. Elle vivait dans une maison de campagne à une dizaine de kilomètres d'ici. Elle a été découverte morte par sa fille en bas de son escalier, la nuque rompue. Sa tête formait un angle droit par rapport au reste du corps.
Il lui montra une photo d'identité de la femme alors qu'elle était encore en vie. Courts cheveux bouclés, visage carré, une lueur dure au fond des yeux. Lucie se demanda pourquoi il ne lui proposait pas des clichés du cadavre tel qu'il le décrivait. D'ordinaire, entre collègues, c'était la procédure.
« Elle habitait seule, » expliqua-t-il. « Il n'y a pas eu d'effraction ni la moindre trace de violence. On a mené une enquête de voisinage, analysé ses appels, interrogé des proches. » Rien de suspect. L'autopsie est également allée dans le sens d'un accident, un bête accident, à croire que ça devait finir par lui arriver.
Lucie fronça les sourcils. « Pourquoi dites-vous ça ?» Il fouilla cette fois dans le tiroir fermé à clé de son bureau.
« Ce que je vais partager avec vous ne fait partie d'aucun dossier. Ce sont, disons, des recherches personnelles. »
Il ouvrit une pochette et lui tendit un article découpé dans un journal. « Éboulement mortel à proximité de Fontaine-le-Puy », titrait-il.
Ce drame est survenu il y a 4 ans. C'était l'été, en Savoie. Nathalie Charlier était en séminaire avec des collègues. Elle travaillait dans le marketing. Leur directeur avait loué un minivan pour une journée d'excursion. Sur la route qui les menait à la station de Val-Thorens, des rochers se sont décrochés d'un pan de montagne. C'était un endroit bien connu pour ses chutes de pierre, d'ailleurs indiqué par de nombreux panneaux d'avertissement. L'un de ces blocs de plusieurs tonnes a heurté le véhicule de plein fouet et l'a projeté vers la pente. Il a alors basculé par-dessus le parapet et a dégringolé d'une dizaine de mètres avant de frapper des sapins qui l'ont stoppé net. Ils étaient 8 à bord. 7 ont été tués sur le coup. Une seule a survécu, avec des séquelles légères.
Nathalie Charlier.
Elle a réchappé à tous les chocs successifs. Comme dans les films catastrophes. Sauf que là, ce n'était pas un film.
Lucie consulta d'autres documents qu'il lui présenta. Les énormes rochers sur la route, le parapet défoncé, le vide juste derrière, une probabilité d'en sortir vivant proche de zéro.
D'après sa fille, Nathalie Charlier ne s'est jamais remise de ce drame, continua le gendarme. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle aurait dû partir avec ses collègues. Certains auraient remercié le ciel chaque jour d'être encore là, mais elle portait ça comme une croix.
Le syndrome du survivant, songea Lucie. Son interlocuteur garda un temps le silence, comme s'il hésitait à poursuivre ses explications, puis il se lança.
Et on la découvre un matin, la nuque fracassée au bas d'un escalier qu'elle a descendu des milliers de fois, avec sa tête retournée à la façon d'une chouette. Comme si...
Lucie plongea ses yeux dans les siens. Elle se rappela à ce moment-là la locution latine que lui avait montré Charcot sur la carte de visite, « Memento mori ». « Souviens-toi que tu vas mourir. »«
Comme si c'était dans l'ordre des choses, » souffla-t-elle, « être rattrapé par la mort. »
Colin Mani se frotta avec vigueur le dessus de sa main droite.
« Regardez, j'en ai les poils qui se dressent. Pourtant, je crois pas à ces trucs-là, moi. »«
Pourquoi vous me parlez d'elle, adjudant? Quel est le rapport avec Emma Doty ?»«
Il y a 2 éléments. » Le premier, c'est que la dépouille de Nathalie Charlier était à la morgue au frais quand Emma Doty est entrée par effraction. L'accident s'était produit 3 jours plus tôt. Charlier était en attente d'autopsie. Un cadavre parmi tant d'autres, me direz-vous, mais... Bon Dieu, ce que je vais vous montrer à présent, c'est la chose la plus étrange que j'ai vue de toute ma vie.
Il récupéra des clichés qu'il observa visiblement perturbés avant de les étaler devant Lucie. Ce qu'elle découvrit alors lui provoqua un frisson. Le visage de Nathalie Charlier avait été photographié en gros plan. Ses yeux grands ouverts, emplis d'effroi, semblaient fixer un point particulier. Sa bouche se tordait vers la gauche, comme si elle poussait un dernier hurlement. Un plan plus large révélait le corps à l'envers, le long des marches, pieds en haut, tête en bas, sur le carrelage. Son bras droit était tendu, ses doigts crispés, prêts à agripper la rambarde, et cet angle impossible au niveau de la nuque. Lucie comprenait le malaise de son confrère. Ses clichés fichaient les jetons. Manille ne la lâchait pas du regard, l'air grave.
Vous avez déjà vu une telle chose, vous ?
En effet, c'est terrifiant. C'est dû à la rigidité cadavérique.
Et vous savez bien que non. D'ordinaire, la rigidité met plusieurs heures à s'installer. Elle n'est pas immédiate. Si bien que les traits des cadavres sont normalement plutôt détendus.
Il disait vrai. Les morts affichaient la plupart du temps des expressions paisibles, telles de tranquilles dormeurs, ce qui contrastait parfois terriblement avec la façon tragique dont ils avaient quitté le monde des vivants.
J'ai cherché à comprendre. Les légistes que j'ai interrogés n'ont pas vraiment su me répondre. Certains pensent qu'il s'agirait de ce qu'on appelle des spasmes cadavériques ou rigidité instantanée. Parfois, le décès est si brutal et violent que le corps et le visage se figent dans la position exacte qu'il présentait une fraction de seconde avant la fin. L'un des légistes m'a dit qu'il avait déjà vu ce phénomène une fois chez un suicidé. C'est aussi arrivé sur les champs de bataille. Pourtant, il secoua la tête.
Regardez cet effroi. Comment la science pourrait expliquer un phénomène pareil? C'est à se demander si... Enfin, je ne devrais pas dire ça, ce n'est pas rationnel, mais... C'est comme si la mort était finalement venue récupérer son dû, et que Nathalie Charlier l'avait vue en face.